L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caïdus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35. Bonjour Bernard Vacherot, vous allez bien?
Bonjour Jean.
Vous allez bien?
Quand je vous vois et quand je vois tous nos amis téléspectateurs, ou enfin spectateurs plutôt, pardon.
Oui, non, ce sont juste des auditeurs, vous savez, ils ne nous voient pas.
Ben, heureusement pour eux, comme ça ils n'ont pas la variole.
Alors je vous demandais si vous allez bien, parce qu'il y a des auditrices qui ont téléphoné pour avoir de vos nouvelles, parce qu'effectivement, il y a une émission qui n'a pas été diffusée sur la totalité du département, et donc suivant les emplacements, les fréquences d'émetteurs, etc., on a pu ne pas vous capter sur le 101.2, effectivement. Il faut se mettre sur le 99.4, c'est plus sûr.
Voilà, eh bien écoutez, je suis au regret pour ces gens fort sympathiques, et je suis dans la joie de les retrouver.
Alors, où en étions-nous de votre longue explication ?
Eh bien, nous en étions au problème qui avait un peu divisé le pape Eugène III, qui aurait bien voulu un petit peu soumettre la République romaine, mais qui avait été contraint de solliciter l'aide de l'empereur d'Allemagne, Frédéric Ier Barberousse. Alors, ceci nous amène, justement, à voir la conception théocratique de leur fonction par les papes. C'est un nouveau passage, là, que j'ouvre présentement. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que la conception théocratique de leur fonction par les papes a à voir avec le monachisme ? Eh bien, vous allez voir que tout est lié, indiscutablement. Au moment où mourut Henri VI le Sévère, ou encore appelé le Cruel, empereur d'Allemagne en 1197, en lequel Henri VI avait été justement nommé le Cruel, le pape Célestin III entamait la dernière année de son pontificat, après avoir été un sage administrateur de l'Église, mais on peut dire sans plus. Ça n'a pas été ce qu'on appellerait un grand pape. Il décéda en 1198. Au mois de janvier 1198, lui succéda un nouveau pape sous le nom d'Innocent III, qui, lui, allait marquer l'Église par une conception très théocratique de son rôle, d'une part, et du rôle des gouvernements politiques royaux et impériaux. Son nom de famille fut Lothair des Saignés, d'origine noble italien. Quand noble Lothair de Saigny fut élève d'un célèbre canoniste de l'école bolognaise, qui était nommé Uccio, qui lui inspira sa pensée théocratique sur le pouvoir pontifical. Sensiblement plus souple que celle qu'en eut le système soutenu par le pape Grégoire VII, pape de 1073 à 1085, la pensée politique d'Innocent III distinguait ce que l'on peut appeler l'auctoritas, c'est-à-dire l'autorité, donc la pleine souveraineté, que seul le pape peut détenir, de la potestas, relevant des souverains qui eux-mêmes reçoivent ces pouvoirs de Dieu, à condition que ce loi soit confirmé par l'autorité des seuls papes. En effet, Rome maintient envers et contre tout qu'elle tient sa primauté absolue et divine, du Christ lui-même et se base toujours sur l'évangile de saint Matthieu au chapitre 16. En conséquence, affirment les papes, toutes les églises nationales se doivent d'être soumises à Rome, et de ce fait, les gouvernements des États n'échappent pas à l'autorité pontificale du fait qu'ils ne tiennent pouvoir et autorité que de et par la grâce divine communiquée par le pouvoir pontifical. Le pouvoir spirituel se veut donc supérieur au pouvoir temporel. Mais, sentant les risques dus à de mauvaises interprétations de cela, et en même temps, comprenant le côté spécieux d'une certaine lecture, disons, de cette vision des choses, le pape y mit ses limites. Innocent III reconnut au roi et empereur leur liberté dans la gestion politique, militaire et sociale de leur royaume et empire, et déclara que la papauté s'abstiendrait d'y intervenir, sauf en cas de péché grave des princes au pouvoir ou d'être mandé par ses autorités pour aider à trancher tel ou tel litige où ces derniers ne se sentiraient pas compétents ou bien qui les dépasserait. Alors, pratiquement, pour mettre cela en œuvre, Innocent III concentra l'administration logistique de l'Église sur Rome, ce qui contribua à renforcer, bien sûr, l'image de Rome dans l'esprit du clergé et des fidèles des Églises nationales. Cela renforça aussi l'idée de voir dans la papauté la ligne directrice de toute vie spirituelle, religieuse et aussi, ben disons-le, politique, car la vision des pouvoirs politiques restait très théocratique. Et une certaine ambiguïté restait malgré tout latente, même dans l'esprit des papes. On sent là un vieux reste de vision des choses, inspiré de l'antiquité impériale romaine et orientale, où pour les deux cultures, religion et politique, ne font qu'un. Sous couleur d'eux, ou voulant restaurer une unité spirituelle et de pensée en Occident, le pape Innocent III encouragea roi et empereur à la reconquête des zones occidentales, encore sous domination dite païenne, c'est-à-dire infidèle, entendez par là musulmane, ou encore soumise aux croyances superstitieuses, et de stimuler leur conversion au christianisme. Là, je me situe toujours dans l'optique romaine. Bon, et pas dans une optique socialo-religieuse, etc. Il insista pour cela en Espagne et en Prusse, et chercha à rétablir son autorité sur Rome, et accrut les états de l'Église des contrées de la Marche, ce qu'on appelait la Marche d'Ancône, et du duché de Spolète en Italie. Alors, profitant du fait qu'il fut le tuteur du jeune Frédéric Roger, héritier d'Henri VI le Sévère ou le Cruel, empereur d'Allemagne, Innocent III fit accroître ses pouvoirs sur la Sicile et sur son royaume. De plus, il fit en sorte d'arbitrer la compétition entre les prétendants à l'Empire germanique, c'est-à-dire en favorisant Othon de Brunswick, alors Brunschweig en Allemagne, contre Philippe de Souabe. Puis, Frédéric Roger, futur Frédéric II, contre Otton IV de Brunswick, qui avait déçu le pape pour être revenu sur ses promesses. Alors en France, notre chère France, le roi Philippe Auguste fut lui aussi l'objet de ses sanctions pour avoir répudié sa seconde épouse, Ingeborg de Danemark, sa première épouse ayant été Isabelle de Hainaut, qu'il ne répudia pas, mais qui mourut en 1190. Alors après s'être remarié donc avec cette Ingeborg de Danemark en 1193, il l'a répudié la même année. Eh oui, les rois ne se gênaient pas. Et épousa en 1196, c'est-à-dire 3 ans plus tard, Agnès de Meran, qu'il répudia encore en 1200 pour revenir à Ingeborg de Danemark.
J'aime mieux rester au lit. Il y a quelque chose de pourri. Passe-moi un verre de whisky. Il neige des confettis. La cervelle et des radis, la vie, c'est la vie. J'aime mieux rester au lit. Je crois que le voisin crie, monte la radio. Je te prie, je veux pas savoir ce qu'il dit. Il se passe des choses ici. Connais-tu les pissenlits? Tu les verras vendredi dans un plan très inédit. Passe-moi un verre de whisky. On se moque de nous ici. Il y a quelque chose de pourri. Dieu est un grand mal poli. Je lui confierai pas mon petit. Dans la chambre, c'est la nuit. Je la connais, c'est une amie.
Brigitte Fontaine, 1971, l'émission de Bernard Vacheron.
Super. nous allons reprendre un petit peu notre périple avec le roi de France, le roi Philippe Auguste. Il fut roi de France du 18 septembre 1180 au 14 juillet 1223, année où il mourut à Mantes, dans les Yvelines. L'Angleterre eut aussi l'honneur d'encourir les foudres papales, à défaut d'encourir celles d'un autre empereur romain, ou dieu romain, Jupiter, en la personne de son roi Jean sans terre, qui régna de 1199 à 1216, pour le motif de son opposition avec le cardinal Langton. Après d'âpres discussions de part et d'autre, les souverains s'inclinèrent. D'autres discussions, disons, eurent lieu et aboutirent à la soumission non seulement de l'Angleterre, mais aussi du Portugal et de l'Aragon et de la Pologne, qui se dirent vassaux du Saint-Siège. Voilà un siège bien assis, sur des sièges fort liés, à des pouvoirs très matériels et fort peu célestes. Enfin, en 1215, Innocent III convoqua le quatrième concile où furent condamnés les cathares, et durant lequel fut théologiquement défini le mystère de la transsubstantiation dans l'Eucharistie. Alors, je rappelle ce qu'est la transsubstantiation.
Oui, parce que sinon, il faut revenir 2 ans en arrière, presque.
Ouais. Alors, transsubstantiation, trans, eh bien, changement de substance, c'est-à-dire passage de la substance du pain au corps du Christ et de la substance du vin au sang du Christ. Voilà le mystère de la transsubstantiation dans l'Eucharistie.
C'est un peu comme les vessies et les lanternes.
Dites donc vous, hein, bravo pour la comparaison, hein, chapeau. Hein. Et les canons dévient, des canons obligeant les catholiques à une confession et une communion chaque année, ce qu'on appelait faire ses Pâques autrefois. Hein. Voilà. Alors, Innocent III mourut en 1216, pratiquement à la fin de ce concile de Latran IV. Innocent III fut le pape qui marqua l'histoire de l'Église de par sa vision extrêmement théocratique des rapports entre Église et État. Qui lui succéda? Eh bien, lui succéda Honorius III, de 1216 à 1227, qui n'a rien changé à la politique de son prédécesseur, donc qui restait un théocratique complet au point de vue de l'État. Puis vint Grégoire IX, qui pontifia de 1227 à 1241, et durcit encore davantage la manière de voir les choses, si c'est possible de la durcir davantage. Célestin IV, qui, pape de 1241, à une date précise inconnue, et oui, il faut le dire, ne changea rien non plus à son prédécesseur. Donc, vous voyez, de 1216 à 1241, voire, bon. Et ce fut ensuite les papes Innocent IV qui reprit le flambeau entre 1243 et 1264. Bon alors, ces divers papes n'ont fait qu'exacerber le problème de la relation entre Église et pouvoir de l'État. Mais, arrivé à ce point de l'histoire de l'Église, nous nous interrogeons. Qui est le vainqueur de toute cette saga? L'Église? Alors dans ce cas, qu'a-t-elle gagné? Ben, au plan politique, avons-le, pas grand-chose, quelques petits morceaux. Au plan spirituel, rien. Au contraire, elle a perdu et se trouve en butte à de nombreuses et souvent virulentes oppositions et contestations internes qui menacent de la déchirer. Est-elle toujours porteuse de l'esprit évangélique? On peut en douter, et d'ailleurs à cette époque, beaucoup en doutèrent et lui récusèrent le droit de prêcher au nom du Christ. Parmi les plus connus d'alors se trouvent les cathares, qui depuis le XIIe siècle et durant tout le XIIIe considèrent le monde et les choses du monde comme sous l'empire du mal, et l'Église comme trop liée aux choses de ce monde et donc au mal. Eh bien, elle apparaît au Qatar comme elle-même dominée par Satan. Et ils ne sont pas les seuls à penser ainsi. Depuis le milieu du Xe siècle en Bulgarie, où vécut le prêtre Jérémie, exista un mouvement religieux fondé par saint prêtre appelé le mouvement des Bogomiles. Ce mouvement se répandit à Constantinople, puis gagna la Grèce et les Balkans, c'est-à-dire la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, où il exista jusqu'à la conquête par les Turcs en cette même contrée en 1463 pour la Bosnie et en 1482 pour l'Herzégovine.
Mais là, vous êtes en train de rentrer dans une explication historico-géographique. À cette heure-là, vous vous rendez compte? Non, il faudra commencer par ça la semaine prochaine.
Avec plaisir, mon cher ami. À bientôt.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus, historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.